Philosophie politique, Père Philippe, Saint-Joseph, 4 décembre 84.
On va continuer et terminer, parce qu'il faut le terminer, cet petit résumé que je vous ai donné, ou plus exactement ce vol rapide sur la République. Je crois qu'on a vu l'aspect principal de la montée vers. Il n'y a pas d'induction. Vous l'avez remarqué. On se jette à plein pied tout d'un coup sur une réalité qui apparaît. Et on était arrivé à cette question très importante qui sûrement est une des questions, je crois, la plus importante pour Platon, c'est qu'il faut que le philosophe soit roi. Il y a deux questions où la sensibilité de Platon est particulièrement aiguisée, la communauté des femmes et d'être philosophe soit roi. Donc faites la psychanalyse de Platon et vous verrez ce que ça donne. Et vous voyez donc là deux aspects où on voit très très bien. Donc 6.484a, le philosophe doit gouverner parce qu'il s'attache à la vérité idéale. C'est significatif. Si les philosophes sont ceux qui sont capables d'atteindre à ce qui existe toujours d'une manière immuable, ne faut-il pas le mettre à la tête de l'État. Vous voyez l'idée de l'éternité. Quelque chose d'immuable. C'est un peu l'inverse de ce que nous voyons aujourd'hui, où il faut que ça change tout le temps. Et qu'à la tête de l'État, il faut mettre quelqu'un qui change tout le temps. Tandis qu'au contraire, ici, c'est tout à fait qui atteint à ce qui existe toujours d'une manière immuable. En temps, ne faut-il pas le mettre à la tête de l'État? C'est à partir de l'ignorant, et ça c'est intéressant à souligner, c'est à partir de l'ignorant, de l'aveugle, que Platon établit la nécessité de mettre le philosophe en avant. Tous les autres sont ignorants, donc. Le raisonnement est très simple. Ils ont la connaissance de tout ce qui est. C'est propre du philosophe. Les philosophes ont la connaissance de tout ce qui est. Ils ont dans l'âme un modèle clair qui, à la manière des peintres, regarde la vérité idéale et s'y rapporte le plus possible. Ils s'y rapportent sans cesse. Ils prennent d'elle la vue la plus exacte possible pour établir ensuite, ici-bas, les lois de bien, de juste et de bon. Vous voyez comme c'est encore très idéaliste, hein ? C'est le modèle qu'on regarde. Et à partir de ce modèle du bien en soi, on établit tout le reste. À partir de là, Platon va établir les qualités du philosophe, chapitre 6, 485b. Épris de la science, qui peut leur dévoiler quelque chose de cette ousia éternelle, inaccessible aux vicissitudes. Ils aiment l'essence tout entière. La sincérité et la volonté de n'admettre jamais, donc de n'admettre jamais sciemment le mensonge. C'est ça les qualités du savant, du philosophe. Épris de la science, et puis sincérité, volonté de n'admettre jamais sincèrement le mensonge, de le détester et de chérir la vérité qui est lié à la science. Il faut discerner ce qui est la nature philosophique. Alors, on aura la nature philosophique. Vous voyez, c'est très significatif. C'est la nature philosophique, donc c'est l'homme qui est lié au bien, qui est lié à la vérité. Il faut discerner ce qui est la nature philosophique de celle qui ne l'est pas. Elle ne doit reculer, elle ne doit receler en elle aucune bassesse. La petitesse d'esprit est incorruptible avec une âme qui doit tenir sans cesse à embrasser l'ensemble et l'universalité des êtres divers, des êtres divins et humains. L'ensemble de l'universalité. Alors là aussi c'est très intéressant. Hein. Vous voyez, c'est un regard synthétique sur le divin et l'humain. Quand on verra dans la scolastique avec Suarez que l'objet propre de la philosophie, c'est de regarder l'être qui se divise en infini et en fini. Oui, on retrouve la même idée. Avoir un regard qui est au-delà du divin et de l'humain. Puisqu'on fait la synthèse, il y a comme un certain dépassement. Donc elle ne doit receler en elle aucune bassesse. La petitesse d'esprit est incompatible avec une âme qui doit tenir sans cesse à embrasser l'ensemble et l'universalité des êtres divins et humains. La mort ne doit pas être chose que devant laquelle on cède, devant laquelle quelque chose qui nous brise. Ceci exclut un naturel lâche et bas. Le philosophe doit avoir la mémoire, il doit avoir la culture et les mœurs, la mesure et la grâce. Bon, peu importe, mais c'est quand même très important pour Platon. Le philosophe qui vit avec ce qui est divin et ordonné devient ordonné et divin autant que le comporte la nature humaine. 500D. On se conforme. Dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es. Perfectionnant leur ouvrage, ils tournent souvent les yeux de deux côtés. D'une part, vers le juste par nature, vers le beau, le tempérant. D'autre part, vers la copie qu'ils en tracent. Donc il y a toujours les deux aspects. Alors ça, c'est au fond très typique de la contemplation de Platon, ce que nous allons voir du reste avec l'allégorie de la caverne. C'est que pour Platon, il n'y a jamais une contemplation pure. On ne peut pas contempler uniquement le bien en soi. Il faut toujours contempler le bien en soi et la justice. La justice et le bien en soi. Il faut contempler les dieux et les hommes. Le philosophe, c'est celui qui perpétuellement est tendu vers les deux. Vous voyez, alors, il y a un mélange à la fois de contemplatif et d'actif. Vous avez dit aussi la vie apostolique. Non, ce n'est pas la même chose, parce que justement, c'est un mixte. Un mixte dans le sens que c'est lié d'une façon telle que c'est nécessaire, alors que dans la vie apostolique, il y a un ordre. Il faut d'abord contempler pour le transmettre aux autres. Et que la contemplation n'implique pas de mettre les autres dans la contemplation. Autrement, ce n'est plus la contemplation. Alors, 505A, l'idée du bien est à la et de la science la plus haute. Et c'est d'elle que la justice et les autres vertus tirent leur utilité et leur avantage. C'est bien ça, l'idée du bien, c'est la science la plus haute, donc c'est la contemplation. Les gardiens doivent, pour veiller sur la constitution, sur le juste et l'honnête, posséder la connaissance du bien. Socrate accepte de parler du fils du bien, qui est le soleil. le bien l'a engendré à son propre, à sa propre ressemblance, qui est dans le monde visible, par rapport à la vue, et aux objets visibles, ce que le bien est dans le monde intelligible, par rapport à l'intelligible et aux autres intelligibles. Ça, c'est une analogie qui est très chère à Platon, je crois qu'elle est très importante. 508b. Voyez bien. Vous avez, j'allais dire, deux divinités. Les fleurs de l'Égypte, hein, le dieu soleil. Ça, c'est net. Alors, bien en soi. Et par rapport à tous les intelligibles, ce que le soleil est par rapport à tous les sensibles. Si le soleil, le soleil est égal à la lumière, c'est par la lumière que nous voyons tous les sensibles, et c'est par le bien en soi qu'on voit tous les intelligibles. Par les intelligibles, la justice en soi. Là, c'est une analogie très nette. Alors, nous allons entrer un peu dans cette allégorie de la caverne. Ici, je vous le lis pour que... 514a. Donc ça, c'est un grand lieu. Vous voyez où ça arrive, hein ? Et c'est intéressant de bien le voir. C'est pour essayer de comprendre pourquoi le philosophe est forcé d'éduquer. Alors, on pourrait dire, nous allons voir ça dans la caverne, on pourrait dire que le philosophe qui va contempler le bien en soi est obligé d'éduquer. L'éducation n'a pas été là. Est lié à la contemplation. Parce que regardant les choses divines, on ne peut pas oublier les hommes. Il s'agit de communiquer aux hommes la lumière qu'on a dans la contemplation. Alors je crois qu'on peut dire que ce qui est vrai du philosophe est vrai de l'État, mais souverainement, vous voyez, il était classique. Il était classique. Que l'État a un devoir d'éduquer. Il faut le fonder. Il faut en montrer la raison profonde. Et la raison profonde, il la prend à partir du philosophe. C'est pour ça que le philosophe explique comment l'État peut devenir un État idéal, et le philosophe explique par sa contemplation comment il est nécessaire d'éduquer. Oui. Donc c'est pas seulement le philosophe, je crois que derrière tout cela, il y a quelque chose de beaucoup plus important. Il y a cette chose très importante, c'est qu'on donne, on justifie par là le rôle propre de la police, le rôle propre de l'État d'éduquer. Ce qu'on revoit aujourd'hui, hein, c'est ça qui est intéressant à voir. Est-ce que la primauté, l'État, pour certains, c'est un absolu. L'État doit éduquer. C'est pas la famille, c'est l'État qui doit éduquer. Alors, vous comprenez, l'État identifié au philosophe. Platon personnalise ça. L'État, c'est le philosophe. C'est pas la famille qui doit éduquer. La famille est aussi bête que le reste. Hein. Dans la pensée de Platon, il n'y en a pas. C'est bien simple. Hein. Alors, dans la pensée de Platon, c'est vraiment le philosophe qui représente l'État, parce que c'est lui qui légifère. En dehors du philosophe, l'État ne sait jamais trop bien où il va. L'État n'a pas de structure. Alors, si le philosophe ne devait pas éduquer, on ne verrait pas pourquoi il éduque. Donc, c'est quelque chose de très, très important pour lui. C'est une justification ultime de ce que représente l'éducation. Donc, au fond, c'est la première philosophie de l'éducation. C'est ça qui me semble intéressant. Parce que c'est la première philosophie de l'éducation qui nous est donnée à ce livre 7 dans la République. Et cette éducation est liée aux philosophes, est liée à la contemplation. Alors, c'est très beau, on est tous d'accord quand on dit ça, je trouve ça admirable. Mais vous voyez, c'est pas, ça peut avoir pas mal de conséquences. Hein. Maintenant, repris-je, représente-toi notre nature. Alors juste avant, n'oubliez pas, juste avant la fin du chapitre 6, il y a quelque chose qui serait très intéressant à voir. C'est les quatre objets de connaissance et les quatre opérations de l'esprit. Si on a le temps, on y reviendra. Parce que ça, c'est toute la critique, c'est tout l'aspect de la structure de la pensée de Platon. C'est juste avant, c'est la fin du chapitre 6. La fin du chapitre 6, c'est là où on découvre, si vous voulez, l'épistémologie platonicienne. Et alors, au terme de cette épistémologie, l'au-delà de cette c'est la contemplation, c'est sûr. Maintenant, repris-je, représente-toi notre nature. Alors, représente-toi, meta tota de, apeiskason, toyuto, paten. Donc il faut se représenter naturellement, représente-toi notre nature, selon qu'elle est ou qu'elle n'est pas, éclairée par l'éducation, d'après le tableau que voici. Donc il s'agit d'éclairer ce que représente l'éducation pour essayer de comprendre ce qu'est la nature humaine. Figure-toi des hommes dans une demeure souterraine, en forme de caverne, dont l'entrée, ouverte à la lumière, s'étend sur toute la longueur de la façade. Ils sont là depuis leur enfance, les jambes et le cou pris dans des chaînes. Ils sont enchaînés, ils sont presque en prison. En sorte qu'ils ne peuvent bouger de place, ni voir ailleurs que devant eux. Et on voit très bien. Ceux qui sont en prison ne peuvent, s'ils viennent regarder dans la place commune, chacun ne peut regarder que devant eux, sans regarder le voisin, n'est-ce pas ? Ni voir ailleurs que devant eux, car les liens les empêchent de tourner la tête. La lumière d'un feu allumé au loin, sur une hauteur, brille derrière eux. Entre le feu et les prisonniers, il y a une route élevée. Le long de cette route, figure-toi, un petit mur, pareil aux cloisons que les montreurs de marionnettes dressent entre eux, et le public est au-dessus desquels ils font voir leur prestige. Je vois cela, dis-je. Oui, il y a toute une mise en scène. Cette mise en scène, c'est pour représenter la situation dans laquelle vous êtes. Nous sommes. Nous sommes dans cette situation, sans le savoir. Parce qu'on n'a pas, on ne se rappelle plus du tout qu'il y a une autre situation. Le prisonnier, au bout d'un certain temps, il est prisonnier et croit qu'il n'y a que cette situation-là. C'est devenu une seconde nature. Je vois cela, dit-il. Figure-toi maintenant, le long de ce petit mur, des hommes portant des ustensiles de toutes sortes qui dépassent la hauteur du mur, et des figures d'hommes et d'animaux, en pierre, en bois, de toutes sortes de formes. Et naturellement, parmi ces porteurs qui défilent, les uns parlent, les autres ne disent rien. Vous voyez, les marionnettes qui passent. Là, il y a des figures d'hommes, des figures d'animaux, des ustensiles, tout ce que vous voulez, tout ça passe. Voilà, dit-il, un étrange tableau et d'étranges prisonniers. Il nous semble, répondis-je, et d'abord, penses-tu que dans cette situation, ils aient vu d'eux-mêmes et de leurs voisins autre chose que les ombres projetées par le feu, sur la partie de la caverne qui leur fait face. Peut-il en être autrement, dit-il. Ils sont contraints toute leur vie de rester la tête immobile. Et des objets qui défilent, n'en est-il pas de même, sans contredit. Dès lors, s'ils pouvaient s'entretenir entre eux, ne penses-tu pas qu'ils croiraient nommer les objets réels eux-mêmes en nommant les ombres qu'ils verraient? Ils n'ont rien vu d'autre. Donc, en voyant les ombres, ils croient que c'est la réalité, nécessairement. La nanké, nécessairement. Et s'il y avait aussi un écho qui renvoyait les sons du fond de la prison, toutes les fois qu'un des passants viendrait à parler, crois-tu qu'il ne prendrait pas sa voix pour celle de l'ombre qui défilerait? Si, par Dieu, dit-il, il est indubitable, repris-je, qu'aux yeux de ces gens-là, la réalité ne saurait être autre chose que les ombres des objets confectionnés. Donc, ils voient uniquement les ombres, et c'est la réalité, c'est ça. Ils ne voient pas par derrière ce qui se passe. Ils ne peuvent pas se retourner. Oui, la métanoïa, hein, la conversion, le retour pour retrouver la source, ils ne peuvent pas. Ils sont uniquement dans les conclusions. Et ils ne voient que les conclusions. Ils ne voient que cela. Il est indubitable, repris-je, qu'aux yeux de ces gens-là, la réalité ne saurait être autre chose que les ondes des objets confectionnés. C'est de toute nécessité, dit-il. Examine maintenant comment ils réagiraient si on les délivrait de leur chaîne et qu'on les guérit de leur ignorance. Et si les choses se passaient naturellement, comme il suit. Qu'on détache un de ses prisonniers, qu'on le force à se dresser soudain, à tourner le cou, à marcher, à lever les yeux vers la lumière. Tous ces mouvements le feront souffrir, et l'éblouissement l'empêchera de regarder les objets dont il voyait les ombres tout à l'heure. Je te demande ce qu'il pourra répondre si on lui dit que tout à l'heure, il ne voyait que des riens sans consistance, mais que maintenant, plus près de la réalité et tourné vers les objets les plus réels, il voit plus juste. Si enfin, lui faisant voir chacun des objets qui défilent devant lui, on l'oblige, à force de questions, à dire ce que c'est. Ne crois-tu pas qu'il sera embarrassé et que les objets qu'il voyait tout à l'heure lui paraîtront plus véritables que ceux qu'on lui montre à présent? Beaucoup plus véritables, dit-il. Très très fort, très astucieux ça. Vous voyez, le conditionnement et la réalité. C'est ça qu'il faut saisir. Hein. C'est une allégorie merveilleuse sur le conditionnement. Si vous êtes conditionné de telle manière, vous ne voyez plus que ça. Vous êtes conditionné. Vous n'avez vu que ça, vous ne pouvez pas voir autre chose. Et si on le forçait à regarder la lumière même, ne crois-tu pas que les yeux lui feraient mal et qu'il se déroberait et retournerait aux choses qu'il peut regarder? Il est habitué de la regarder, toutes ces autres choses sont en harmonie avec lui. Et qu'il les croirait réellement plus distinctes que celles qu'on lui montre. Je le crois, fit-il. Et si, repris-je, on le tirait de là par force, et qu'on lui fit gravir la montée rude et escarpée, et qu'on ne le lâchât pas, avant de l'avoir traîné dehors à la lumière du soleil, vous voyez la lumière du soleil qui revient, ne penses-tu pas qu'il souffrirait et se révolterait d'être ainsi traité, et qu'une fois arrivé à la lumière, il aurait les yeux éblouis de son éclat et ne pourrait voir aucun des objets que nous appelons à présent véritable. Il ne le pourrait pas, dit-il. Du moins, tout d'abord, oui. Comme c'est difficile, hein? La conversion vers le réel, quand on est entièrement conditionné, totalement conditionné. Il ne le pourrait pas, dit-il, du moins tout d'abord. Il devrait en effet, reprit-il, s'y habituer, s'il voulait voir le monde supérieur. Tout d'abord, ce qu'il regarderait le plus facilement, ce sont les ombres, puis les images des hommes et des autres objets reflétés dans les eaux, puis les objets eux-mêmes, puis élevant ses regards vers la lumière des astres et de la lune, il contemplerait pendant la nuit les constellations et le firmament lui-même plus facilement qu'il ne ferait pendant le jour, le soleil et l'éclat du soleil. Sans doute, à la fin, je pense, ce serait le soleil. Non dans les eaux, ni dans ses images reflétées sur quelque autre point, mais le soleil lui-même, dans son propre séjour, qu'il pourrait regarder et contempler tel qu'il est. Nécessairement, dit-il, après cela, il en viendrait à conclure au sujet du soleil que c'est lui qui produit les saisons et les années, qu'il gouverne tout le monde visible et qu'il est en quelque manière la cause de toutes ces choses qui, lui et ses compagnons, voyaient dans la caverne. Il est évident, dit-il, que c'est là qu'il en viendrait après ces diverses expériences. Si ensuite il revenait à penser à sa première demeure, à la science qu'on y possède, et aux compagnons de sa captivité, ne crois-tu pas qu'il se féliciterait du changement et qu'il les prendrait en pitié? Certes, si. Quant aux honneurs et aux louanges qu'ils pouvaient alors se donner les uns les autres, et aux récompenses accordées à celui qui discernait de l'œil le plus pénétrant des objets qui passaient, qui se rappelait le plus exactement ce qui passait régulièrement, les premiers ou les derniers, ou ensemble, et qui, par là même, était le plus habile à deviner celui qui allait arriver. Penses-tu que notre homme en aurait envie, qu'il jalouserait ceux qui seraient parmi ses premiers en possession des honneurs et de la puissance? Ne penserait-il pas comme Achille dans Homère, et ne préférait-il pas 100 fois n'être qu'un valet de charrue au service d'un pauvre laboureur et supporter tous les maux possibles plutôt que de revenir à ses anciennes illusions et de vivre comme il vivait? Je suis de ton avis, dit-il. Je préférerais tout souffrir plutôt que de revenir à cette vie. Imagine encore ceci, repris-je. Si notre homme redescendait et reprenait son ancienne place, n'aurait-il pas les yeux offusqués par les ténèbres en venant brusquement du soleil? Assurément, dit-il. Et s'il lui fallait de nouveau juger de ses ombres et concourir avec les prisonniers qui n'ont jamais quitté leur chaîne, pendant que sa vue est encore confuse et avant que ses yeux se soient remis et accoutumés à l'obscurité, ce qui demanderait un temps assez long, n'apprendrait-il pas à rire et ne dirait-il pas de lui que pour être monté là-haut, il est revenu les yeux gâtés, que ce n'est même pas la peine de tenter l'ascension. Et si quelqu'un en essayait de les délier et de les conduire en haut, et qu'il puisse le tenir en leurs mains et le tuer, ne le tuerait-il pas ? Il le tuerait certainement, dit-il. Maintenant, repris-je, il faut, mon cher Glaucon, appliquer exactement cette image à ce que nous avons dit plus haut. Transposition. Ceci pour montrer la situation du philosophe. C'est pas étonnant que le philosophe soit chassé de ses concitoyens. Parce qu'il a vu quelque chose que personne d'autre n'a vu. Et quand il veut conduire les autres à la vérité, les autres disent « mais il est fou ». Maintenant, repris-je, il faut, mon cher Glaucon, appliquer exactement cette image à ce que nous avons dit plus haut. Il faut assimiler le monde visible au séjour de la prison, à la lumière du feu dont elle est éclairée à l'effet du soleil. Quant à la montée dans le monde supérieur et à la contemplation de ses merveilles, voici la montée de l'âme dans le monde intelligible. C'est pour ça qu'on a fait le parallélisme entre la grande montée de Parménide et la caverne. Oui. Parménide voit la grande montée vers la lumière. Alors, Platon, lui, reprend le point de vue, ou plus exactement, invente le thème de la caverne. Mais c'est très intéressant de faire le parallélisme. Le parallélisme entre ce que représente Parménide, le poème de Parménide. Je vous ai dit, lisez le poème de Parménide. Il faut à tout prix avoir lu le poème de Parménide. Ça, c'est nécessaire. Alors, lire le poème, et autant que possible, le relire chaque année. Parce que c'est une chose très belle. Au point de vue philosophique, c'est, voyez, l'analogue du prologue de Saint Jean au point de vue de Saint Jean. C'est, au point de vue de la philosophie grecque, c'est l'analogue. C'est quelque chose comme ça. C'est une grande montée vers la lumière. Et alors, ce qui est très curieux, c'est que cette grande montée vers la lumière est traduite par Platon par la caverne. C'est très, très curieux, ça. Chez Parménide, vous voyez, c'est ça, hein, j'allais dire. Chez Parménide, c'est très net. Hein. On a comme une espèce de grande montée. Puis, il y a une porte de la justice. Tout y est, vraiment, on trouve tous les éléments. Le philosophe avide avec un immense, avec le grand désir de la vérité, passe les portes de la justice pour arriver à la déesse qui lui révèle l'être. Et une fois qu'il voit l'être, il peut juger de tout, jugement de sagesse. Il juge de l'opinion des hommes. Pardon, l'opinion des hommes est beaucoup plus basse. L'opinion des hommes est même en dessous. L'opinion des hommes à double tête. Alors ici, on est la vérité. La grosse vérité. Et ici, l'opinion. Alors, c'est grand. C'est la grande vision contemplative de l'être grâce à la déesse. Donc il y a une révélation. Il y a une révélation et la révélation fonctionne. C'est la révélation de l'être. C'est l'intuition de l'être. C'est la révélation de l'être. Alors chez Platon, vous voyez que c'est tout à fait différent. Il y a la sortie de la caverne. Alors on peut dire que ça c'est la caverne. La caverne fait qu'on voit les ombres, uniquement. On voit que les ombres. Pourquoi ? Parce que la cause, la lumière, elle est derrière, on ne la voit pas. Tant que vous ne voyez pas la cause de l'intelligibilité des choses, vous ne voyez que des ombres. Et vous êtes dans l'opinion. Je dis, c'est le conditionnement humain. On reste à ce niveau-là. Alors, on ne voit rien, quoi. On voit les apparences. On dit que les apparences, c'est la réalité. Alors, ce qui est très curieux, c'est que pour Parménide, le philosophe contemple et la découverte de l'être finalise sa contemplation. Il juge l'opinion des hommes, il les voit, mais il n'est pas obligé d'y retourner. Tandis que pour Platon, alors c'est là, on voit très bien, pour Platon, la caverne, on sort de la caverne, ce n'est plus l'être, c'est le bien en soi. C'est cette contemplation du bien en soi. Et c'est lorsqu'il contemple le bien en soi, il est obligé. Il faut sauver la paille des liens. Il faut sauver l'éducation. Il est obligé de retourner auprès de ces hommes à double tête. Obligé de retourner auprès de ces hommes qui ne voient rien, ces hommes qui sont dans l'obscurité. Il est obligé d'y retourner. Vous voyez, là on voit très bien la différence de la perspective de la pure contemplation de Parménide et de la même contemplation d'une certaine manière chez Platon, mais on voit très bien que cette contemplation n'a plus la même pureté parce que le philosophe, ayant contemplé le bien en soi, doit retourner. Oui, c'est peut-être parce que c'est le bien et ce n'est pas l'être. Par le bien, la philosophie première fonde l'éthique et la politique. Tandis que l'être, considéré en lui-même, ne fonde pas l'éthique. Oui. Alors ça, c'est très curieux et c'est très intéressant à voir parce que vous avez là deux visions, la vision parménidienne, dans toute sa limpidité, la contemplation de l'être, et la vision platonicienne, qui est la vision du bien en soi, et qui conduit à la justice. Vous voyez ? Une fois qu'on a dépassé les portes de la Psyché, de la justice, on est libéré, et on ne voit plus que l'être, par nous-mêmes. Une fois qu'on contemple le bien en soi, on doit regarder la justice, on doit l'avoir réalisé dans l'État, et pour l'avoir réalisé dans l'État, il faut passer par la faille des liens, par le point de vue de l'éducation. Vous voyez ? Il faut faire le parallélisme, c'est une clé par rapport à deux aspects différents, la contemplation de l'être, la contemplation du bien. Et ce qui est d'autant plus étonnant, c'est que de fait, la philosophie première regardant l'être comme tel, à une espèce de liberté absolue. Dès qu'on contemple non plus l'être, mais le bien, on fonde l'éthique et la politique. Mais on n'y retourne pas nécessairement. Ça, c'est différent. Il faut être platonicien pour dire qu'on y retourne. Donc maintenant, repris-je, il faut, mon cher Glaucon, appliquer exactement cette image à ce que nous avons dit plus haut. Il faut assimiler le monde visible au séjour de la prison. Et la lumière du feu dont elle est éclairée à l'effet du soleil. Quant à la montée dans le monde supérieur et à la contemplation de ses merveilles, voici la montée de l'âme dans le monde intelligible. Et tu ne te tromperas pas sur ma pensée, puisque tu désires la connaître. Dieu sait si elle est vraie. En tout cas, c'est mon opinion qu'aux dernières limites du monde intelligible, et l'idée du bien qu'on aperçoit avec peine, mais qu'on ne peut apercevoir sans conclure quelle est la cause universelle de tout ce qu'il y a de bien et de beau. Et qu'on ne peut apercevoir sans conclure. Dès que vous saisissez le bien, vous saisissez le bien comme cause. Il n'y a pas les deux moments. C'est une nécessité, c'est un lien absolument nécessaire, mais qu'on ne peut apercevoir sans conclure quelle est la cause universelle de tout ce qu'il y a de bien et de beau. Et que dans le monde visible, c'est elle qui a créé la lumière et le dispensateur de la lumière. Et que dans le monde intelligible. C'est elle qui dispense et procure la vérité et l'intelligence. Et qu'il faut la voir pour se conduire avec sagesse, soit dans la vie privée, soit dans la vie publique. Je suis de ton avis, dit-il, autant que je peux suivre ta pensée. Eh bien, repris-je, sois encore de mon avis sur ce point. Évidemment, autrement, il n'y a plus de dialogue. Mais sois encore de mon avis sur ce point, qu'il n'est pas étonnant que ceux qui se sont élevés jusque-là ne soient plus disposés à prendre en main les affaires humaines et que leur âme aspire sans cesse à demeurer sur ses hauteurs. Cela est bien naturel. S'il faut encore sur ce point s'en rapporter à notre allégorie. Mais repris-je, penses-tu qu'il fallait s'étonner qu'en passant de ces contemplations divines aux misérables réalités de la vie humaine, on ait l'air gauche et tout à fait ridicule lorsque, ayant encore la vue trouble et n'étant pas suffisamment habitué aux ténèbres où l'on vient de tomber, on est forcé d'entrer en dispute dans les tribunaux ou ailleurs sur les ombres du juste ou sur les images qui projettent ces ombres et de combattre les interprétations qu'en font les gens, des gens qui n'ont jamais vu la justice en soi. Ce n'est pas étonnant du tout, dit-il. Mais si l'on était censé, repris-je, on se rappellerait que les yeux sont troublés de deux manières et par deux causes opposées, par le passage de la lumière à l'obscurité et par celui de l'obscurité à la lumière. Alors, réfléchissant que ces deux cas s'appliquent aussi à l'âme, quand on verrait une âme troublée, et impuissante à discerner un objet, au lieu d'en rire sans raison, on examinerait si, au sortir d'une vie plus lumineuse, elle est, faute d'habitude, offusquée par les ténèbres. Et si, venant de l'ignorance à la lumière, elle est éblouie par une splendeur trop éclatante, dans le premier cas, on la féliciterait de son embarras, et de l'usage qu'elle fait de la vie, dans l'autre, on la plaindrait, et l'on voudrait rire, et si l'on voulait rire à ses dépens, la raillerie serait moins ridicule que si elle tombait sur l'âme qui redescend de la lumière. De là, dit-il, une distinction très juste. Il faut donc reprendre, si tout cela est vrai, en tirer la conclusion que voici, c'est que l'éducation n'est point ce que certains proclament qu'elle est. Vous voyez bien, tout est vu pour ça. La païdéia joue un rôle tellement grand dans la cité platonicienne, la païdéia joue un rôle tellement grand qu'il s'agit de comprendre idéalement ce qu'est la païdéia. Puisque s'il n'y a pas de païdéia, il n'y a pas éducation des gardiens. S'il n'y a pas éducation des gardiens, il n'y aura pas de magistrat, il n'y aura pas de philosophe. Oui, c'est très très curieux. Platon, qui lui est plutôt un intuitif. Platon, qui est plutôt quelqu'un qui saisit directement, donne une telle importance à la païdéia. C'est un petit peu contradictoire. Hein? Ça, c'est les contradictions qu'on trouve toujours dans Platon. Tu vois? À la séparation de la cause formelle et de la cause matérielle. Il les maintient toutes les deux. Mais il y a une séparation entre les deux. Puisque la forme peut exister indépendamment. Et le point de vue de la matière, on voit très bien ce que c'est. La matière, c'est le fondement de tout le conditionnement. Et ce conditionnement, il est tellement lourd, puisque le corps, c'est le tombeau de l'âme. Alors vous voyez l'importance de la païdéia. Alors, à partir de là, vous voyez, donc il montre ce que c'est que cette éducation qui ne peut se faire que par le philosophe, puisque seul le philosophe a contemplé le bien en soi. Donc il peut seul donner le vrai sens de la justice au gardien, au magistrat, et donc constituer un véritable état. Mais alors, ne nous étonnons pas que les philosophes, on leur casse la tête. Parce que les prisonniers qui sont dedans n'acceptent pas qu'on leur dise que ce qu'ils voient, ce sont des apparences. Ils n'acceptent pas que leur ronron habituel ne soit pas la réalité. Et qu'on vienne les déloger. Et qu'on les oblige de regarder autre chose. Ça, ils n'acceptent pas. Donc il faut comprendre comment le philosophe qui doit faire ça par devoir contempler et revenir à la caverne, le philosophe ne soit pas accepté. Il faut justifier que Platon a eu des méprises terribles, il a eu des échecs terribles, il faut les expliquer ces échecs. Et bien ça explique merveilleusement tous les échecs politiques de Platon. Ça. Tous les échecs politiques de Platon sont merveilleusement expliqués là. Mais c'est pas étonnant, ça ne peut pas être autrement. Il y a un fond de vérité, hein, c'est pas du tout. C'est quelque chose de très beau, ça. Parménide et la caverne sont pour la philosophie grecque deux grands moments. Ça, je crois que c'est très très important de le saisir. Parce qu'on ne peut pas tout comprendre, tout connaître, mais il faut au moins connaître les grands moments. Parménide, la contemplation de l'être. Platon, là, avec la caverne, la contemplation du bien qui est comme la lumière, parce que c'est la lumière qui éclaire tout reste, et ça explique le rôle du philosophe et la grandeur de la païdéia. Sans l'éducation, on ne peut absolument pas entrer